toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne, et regarder des séries alors. Est-ce apprendre à vivre ? Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Notre invitée du jour n'est ni une réalisatrice, ni une actrice, productrice ou professionnelle du cinéma, mais c'est une spectatrice et une amatrice éclairée de séries. Bonjour Sandra Laugier.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous venez de publier aux éditions du CNRS un ouvrage collectif intitulé « Les séries, laboratoire d'éveil politique ». Avec vous, nous allons voir comment Lupin, The Walking Dead, The Americans ou encore Serviteurs du Peuple peuvent être des vade-mecum ou à tout le moins des exemples à même d'éclairer les citoyens dans la vie collective ou individuelle. À l'affiche de notre cinéma également cette semaine, le journal du 7e art et la sortie en Chine de Black Panther, Wakanda Forever.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Sandra Laugier, tout d'abord une première question sur la nature même de votre objet d'étude, les séries, donc les produits hein, de plateformes, certaines très grand public, d'autres plus d'auteurs. Les séries ont longtemps été considérées, écrivez-vous, hein, comme un genre très mineur, un pur divertissement sans valeur. Vous êtes philosophe, accompagné d'autres éminents universitaires, vous publiez un livre de réflexion philosophique, éthique sur les séries.
Les séries ont dès le départ été plutôt un produit considéré comme commercial et même assez domestique, puisque c'est quand même quelque chose qui était regardé à la maison, souvent par des femmes au foyer, des enfants, et donc elles ont une espèce d'image un peu dévalorisée, et c'est ça qui m'a toujours intéressée, bien sûr, hein, depuis toujours, dans la mesure où peut-être qu'il y a un lien entre ce manque d'intérêt pour les séries et des questions aussi sociales ou de genre, hein, puisque c'est vrai qu'elles sont vraiment vues dans un univers qui est privé et non pas, par exemple, dans ce lieu public, hein, ouvert, même s'il est très particulier, puisqu'il est sombre auprès d'inconnus, qui est la salle de cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette différence très forte et qui s'est transformée progressivement aussi en une sorte de hiérarchie, hein, puisqu'on a quand même tendance à considérer que l'art véritable est, bon, avec raison aussi, hein, c'est le cinéma, et que les séries télévisées vont en fait être des purs produits de l'industrie destinés à plaire à un certain public, et souvent d'ailleurs, dès le départ, un public féminin. Et donc, je me suis intéressée à cette image qu'on a des séries télévisées, dans la mesure où, au fil des années, les amateurs de séries le savent bien, hein, petit à petit, il y a eu vraiment un corpus d'œuvres extrêmement importantes, en fait, qui sont des véritables œuvres d'art. Petit à petit, on s'aperçoit aussi que les séries télévisées touchent un public maintenant extrêmement large, qu'elles ont quand même aussi une influence qui est importante et qui est peut-être insuffisamment reconnue parce qu'elles ne sont pas considérées comme vraiment des œuvres d'art, des produits de la même qualité. Et donc, c'est ça qui m'a intéressée.
Alors, ce ne sont pas des œuvres d'art. Pourtant, même les intellectuels les regardent peut-être en secret, sans le dire. Tout le monde regarde les séries. Ça reste une production industrielle, mais qui a finalement une vocation pédagogique aussi.
Alors, plus personne ne regarde vraiment en cachette, hein, finalement. Beaucoup d'intellectuels sont très contents d'en discuter, hein, et c'est vrai que c'est quand même vraiment une activité qui est assez reconnue. Par ailleurs, c'est un produit industriel, certes, mais bon, le cinéma aussi. Le grand cinéma de Hollywood dans les années 30-40, qui reste aussi un peu ma référence, était aussi une production industrielle, hein. Donc, ce que font les séries, c'est en effet former aussi leurs spectateurs, hein, les éduquer en leur transmettant aussi des visions du monde, des idées. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément très important aujourd'hui de ce rôle des séries télé.
Finalement, c'est une culture démocratique partagée qui crée des valeurs communes et dont on peut discuter en famille, entre amis, partout. Donc, c'est ce partage aussi qui est intéressant.
Je pense que c'est vraiment cette force des séries télévisées, alors, qui est peut-être en train d'évoluer, hein, mais c'est vrai que le phénomène qu'on a eu, par exemple, avec une grande série très mondialisée comme Game of Thrones, hein, qui a vraiment marqué beaucoup de spectateurs, c'est que on pouvait en discuter avec n'importe qui, en fait, avec des gens de toute génération,
De
tout milieu, et de toute nationalité. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette globalisation hein, du corpus des séries, qui est quand même un phénomène très important, hein, donc, bon, qui rejoint la mondialisation du cinéma, hein, bien sûr, mais qui est quelque chose qui, à mon avis, permet, bien sûr, qui a cet impact et cette démocratisation. Parce que, bien sûr, n'importe qui peut entrer dans une salle de cinéma, hein, il n'y a pas besoin d'examen, mais les séries télévisées ont vraiment, en fait, cette vocation à s'adresser à tous et chacun finalement ou chacune va se sentir compétent pour les regarder.
Alors commençons avec un succès mondial français, hein, les plus retentissants de ces dernières années.
Arsène Lupin a de multiples talents. C'est un maître du déguisement. Il est capable de changer d'identité en un instant.
Désolé, j'ai aucun poste de libre.
Eh bien, l'agence, ils m'ont dit que...
Eh bien, l'agence, ils sont trompés.
T'es d'où, Sénégal ?
Bah, quel ? Tu connais ?
Mon père, il est de là-bas. Ben ouais, quand j'étais petit, il m'a amené faire les courses chez un gars, là, près de la station service.
Hey, tu connais Boulay ?
Moi, je suis que là-bas.
Allez, on se dépêche. On n'a pas toute la nuit.
Ne faites jamais confiance à Arsène Lupin. D'ailleurs, son nom n'est peut-être pas Lupin. En vérité, ses noms sont innombrables. Ses talents extraordinaires, Lupin les utilise pour commettre ses larcins. Aucun obstacle ne peut contrecarrer ses plans. Mais son plus grand talent, sans aucun doute,
pardon, merci.
C'est d'avoir toujours un coup d'avance.
Voilà, c'est Omar Sy, bien sûr, dans Lupin, énorme succès sur Netflix. Alors rappelons qu'Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin, mais un marlou qui s'inspire du gentleman cambrioleur pour assouvir une vengeance personnelle. Ça reste néanmoins remarquable, hein, Sandra Laugier, le choix d'un acteur noir, alors certes extrêmement populaire comme Omar Sy, mais pour jouer dans une série inspirée du patrimoine littéraire français.
Ah, je crois que c'est ça qui a vraiment été peut-être le plus subversif hein, dans cette série. C'est en effet s'attaquer à vraiment une sorte d'icône française et donc qui avait été interprétée par toutes sortes d'acteurs très blancs et qui tout d'un coup va être incarnée, même si effectivement c'est par Arsène Lupin, il y a une référence très forte hein, bah, au personnage hein, donc, qui va en effet donner à cette série une sorte de force politique tout à fait inédite, puisque en réalité on n'a jamais abordé ces questions dans une série française. Et donc, ça lui permet de parler, effectivement, bah, du colonialisme. Ça lui permet, évidemment, de parler des préjugés racistes toujours présents en France et dont il se moque quand même de façon très, très drôle. Hein. Il y a un côté humoristique, mais en même temps, extrêmement percutant. Et ne serait-ce que la première scène où, finalement, il s'introduit au Louvre, hein, il passe totalement inaperçu. Pourquoi ? Parce qu'il est au milieu d'un petit groupe de personnes chargées du ménage. Hein, et donc, dans ce cas-là, on ne fait pas attention à lui. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant quand on parle de l'invisibilité des personnes.
Exactement. Et une des répliques d'Omar Sy dans Lupin, c'est « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé ».
Oui. Et oui, effectivement, vous m'avez vu, vous ne m'avez pas regardé. Et en réalité, ça va être ça notre puissance, hein, il va dire. C'est parce qu'effectivement, on ne nous voit pas. Et donc, retourner en fait cette invisibilité en un élément finalement qui va lui servir.
Vous pensez que le succès aussi de Lupin s'explique aussi parce que la période, entre guillemets, est propice? C'est vrai que dans les années 70-80, vous citez un peu dans le livre Sandra Logier des exemples, et ces séries, c'était très très blanc quand même, enfin très masculin. Enfin, Columbo, Starsky et Hutch, Magnum, c'était très blanc et très masculin.
Ah, bien sûr, la tradition des séries télévisées, en tout cas des séries télévisées qui ont commencé vraiment à avoir du succès, à être reconnues, hein, parce qu'avant, sinon, il y avait les soaps, il y avait quand même des femmes, bon, des rôles très valorisants, mais effectivement, la tradition d'abord des premières séries, c'est soit un homme, effectivement, Columbo, soit le couple d'hommes, hein, donc Starsky et Miami Vice, et c'est uniquement quand on a commencé finalement à avoir des ensembles plus larges d'acteurs qu'on a pu finalement y intégrer des femmes. Et donc dans, par exemple, une série que j'aime beaucoup, dont on parle pas, qui s'appelait NYPD Blue, New York Police Blues, où il y avait des personnages masculins, mais il y avait beaucoup de femmes. Et donc la façon dont les séries petit à petit ont pu intégrer plus de monde a vraiment été crucial en fait pour mettre des femmes en avant. Et si vous regardez une série comme Game of Thrones qu'on évoquait tout à l'heure, les dernières saisons, il y a pratiquement que des femmes, il y a peut-être qui sont vraiment dans des premiers rôles, hein. Il y a encore deux hommes qui restent plus ou moins, mais c'est vraiment quatre ou cinq femmes qui ont les rôles principaux. Et depuis, c'est vrai que le phénomène s'est renforcé, puisqu'on a énormément de séries où il n'y aura que des femmes. Les femmes, les noirs, les homosexuels, par exemple, n'ont plus envie d'être représentés par des hommes blancs hétérosexuels. Ils veulent trouver des gens comme elles ou eux, en fait. Et c'est ça, en fait, le phénomène.
Lupin dans l'ombre d'Arsène avec Omar Sy, Sandra Logier, c'est aussi un exemple de tout l'excellent recyclage que peut faire l'industrie des séries. Parce que certes, il y a un personnage noir, Omar Sy, qui est le personnage principal, mais ça se passe aussi à Paris, au Louvre, dans un Paris haussmannien qui fait rêver le monde entier, qui est la première destination touristique. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait. Hein, pas unique, on ne se cristallise pas uniquement, même si certains commentaires sur les réseaux sociaux auraient pu nous le faire penser, on ne se cristallise pas uniquement sur le personnage d'Omar Sy.
Ah, bien sûr, il y a vraiment tout ce cadre de la culture française. Alors, ce n'est pas Émilie à Paris en blague, mais malgré tout, il y a ce charme aussi, cet atout, bien sûr, qui est ce cadre de la vie parisienne, du Louvre, de l'Étretat, etc. Donc, il y a cet élément-là. Mais ce qui est intéressant, c'est à quel point les séries, maintenant, absorbent aussi un peu l'ensemble de la culture populaire, et non pas forcément populaire d'ailleurs, hein. Il y a vraiment une espèce d'appropriation aussi de l'ensemble, mais avec des résistances, puisqu'on parlait des réactions quand même à Lupin. Et c'est vrai que moi, j'étais quand même très frappée des articles qui disaient que quand même Georges Descrières, c'était mieux, il avait plus la classe, etc. Enfin, quand même, il y a un racisme très ancré, hein, malgré tout, qui s'est exprimé à cette occasion.
Exprimé, mais il n'a pas tellement tenu la route face au rouleau compresseur des spectateurs qui ont adoré, qui ont adhéré et qui ont fait de Lupin un succès mondial.
Bien sûr, mais c'est pour cela que je parle de démocratie, parce qu'il y a vraiment peut-être une évolution dans le public et un degré de politique et de démocratisation dans le public qui est bien supérieur à celui finalement des commentateurs, des classes plus culturelles, hein, dominantes en fait.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, ce n'est pas une nouveauté, mais un titre de 1970 qui connaît depuis quelques jours une nouvelle jeunesse grâce à une série, The Last of Us. Et ce titre, c'est Long Long Time de Linda Ronstadt.
And I think I'm gonna love you
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Sandra Laugier pour parler des séries Laboratoire d'éveil politique. Là, on vient d'écouter la musique qu'on entend à l'épisode 3 de la série The Last of Us, qui est vraiment en cours de diffusion sur Amazon Prime et qui déjà s'impose, même si on ne la trouve pas dans votre livre, Sandra Laugier est là.
C'est un peu, oui.
Mais elle s'impose déjà.
C'est trop récent, le livre. Bon, c'est quand même composé il y a longtemps, mais effectivement, si on devait dire quelles sont peut-être les 10 grandes œuvres en matière de série, The Last of Us.
D'ores et déjà
en faire partie, parce que d'abord c'est une série esthétiquement magnifique, un épisode comme celui-là, ce troisième épisode qui est vraiment extrêmement audacieux à la fois esthétiquement et puis dans sa représentation de la vie ordinaire d'un couple homosexuel dans un univers apocalyptique, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant et original. Et ça, c'est vraiment une série qui montre en fait à quel point les séries télévisées ont maintenant un niveau tout à fait remarquable à la fois politique et esthétique, et donc aussi à quel point on a maintenant, y compris dans des séries quand même très grand public comme celle-là, parce que The Last of Us, c'est en plus inspiré d'un jeu vidéo, c'est quelque chose qui vise très très large, il y a vraiment cette possibilité
de montrer
d'expression.
Donc, sur le temps long, la vie d'un couple homosexuel, deux hommes qui ne sont plus dans leur prime jeunesse, qui se rencontrent dans ce milieu, donc dans une ville complètement dépeuplée, où il y a une menace de zombies, et que l'on va suivre là, sur un épisode dont on va suivre la vie. Je rappelle que The Last of Us est en cours de diffusion.
Et on voit à quel point HBO est quand même toujours à la pointe, alors qu'on parle beaucoup des plateformes, etc. Notamment, pour parler techniquement, en relinéarisant, en passant un épisode par semaine, alors que tout le monde s'habitue à voir, à binger.
C'est-à-dire à tout consommer d'un coup.
Et là, finalement, il y a cette volonté finalement, de recréer cet attachement sur le long terme des séries où on va effectivement pendant une semaine discuter d'un épisode, y repenser. Et c'est cela en fait qui fait que ces séries, ces personnages, ces histoires vont s'inscrire en nous profondément. C'est vraiment parce qu'on les a accompagnés
vraiment
pendant longtemps.
Ça crée un attachement.
Alors, les séries peuvent-elles avoir un véritable effet sur la réalité, sur la perception évidemment, sur les représentations, mais est-ce qu'elles peuvent participer à des changements politiques? Prenons un exemple spectaculaire venu d'Ukraine, c'est Serviteur du peuple. Alors là, on entend l'acteur Volodymyr Zelensky. Il joue dans la série Serviteur du peuple, un modeste professeur d'histoire à Kiev qui apprend son élection surprise. Il n'y s'y attendait pas. Et là, Sandra Laugier, c'est extraordinaire. Cette série, c'est presque une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire Volodymyr Zelensky joue un comédien devenu président malgré lui. Et dans la vraie vie, c'est presque ce qui se passe, en fait.
Dans la vraie vie, il va ensuite se présenter aux élections en recréant vraiment dans la réalité le scénario de sa série et en créant un parti qui s'appelle Serviteur du peuple, du nom de sa série. Hein, et donc, qui, au bout de la troisième saison où dans la fiction il est arrivé au pouvoir, doit interrompre sa série parce qu'il est candidat aux élections. Donc là, on a vraiment pas seulement peut-être une prophétie autoréalisatrice, mais aussi une forme d'action politique à partir de la série. La série utilisée finalement comme outil de campagne, hein, puisqu'il a aussi utilisé pour se faire élire. Et d'ailleurs, il utilise bien sûr aussi ses talents très forts de communicant dans tout ce tout l'épisode suivant, qu'il n'avait peut-être pas prévu, par contre, dans sa série, avec où il est chef de guerre.
Alors, pour les spectateurs, les téléspectateurs, ça crée un petit sentiment de vertige, quand même, d'en arriver là. Parce qu'on se dit que la série n'est plus seulement le miroir de la société, mais que, finalement, elles agissent sur le monde réel.
Oui, je crois que là, on a acquis... oui, il y a une sorte d'étape supplémentaire. Hein, vous avez tout à fait raison, puisque ça fait très longtemps qu'on dit les séries révèlent des choses sur la société. C'est un miroir et on ne s'est pas aperçu que depuis un moment, les séries agissent très directement sur la société. Beaucoup de gens considèrent que même une série comme 24 heures chrono, hein, qui n'était pas forcément très engagée politiquement, en présentant dès sa première saison en fait, un président noir, hein, qui était donc le président David Palmer, qui était en plus une figure vraiment très noble, hein, a quand même au moins habitué le public à avoir un président noir.
Bien avant Barack Obama.
Voilà, bien avant Barack Obama. Et une série comme The West Wing avait aussi présenté un candidat issu d'une minorité dans sa dernière saison pour succéder à son héros principal, le président Bartlet. Donc il y a en fait vraiment cette influence des séries sur les discours politiques. Et on a ça en particulier dans des séries qui sont extrêmement influentes, comme les séries israéliennes, hein, comme Fauda, qui vraiment a donné une certaine représentation en fait, des conflits israélo-palestiniens et de l'action dans les territoires occupés de l'armée israélienne. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui veut impacter, en fait, donner une certaine vision, une certaine connaissance de la société.
Alors, ce n'est pas la première fois qu'un acteur devient président de la République. On a connu Ronald Reagan aux États-Unis ou Arnold Schwarzenegger, qui n'est pas devenu président de la République, mais qui s'est quand même présenté à des élections. Là, on passe dans une autre dimension et on pourrait se dire aussi, finalement, c'est plus vraiment très démocratique dans ce cas-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'accaparement du pouvoir par des acteurs? Ce que raconte la série, en fait. Hein, elle raconte l'accession à la présidence d'un quidam poussé par un complot, par des hommes qui manipulent ce professeur d'université. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui irait contre la démocratie?
Alors, il y a effectivement une forme de manipulation. Hein, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas dire le contraire, hein, puisqu'il a vraiment utilisé la série pour arriver au pouvoir. En même temps, si vous regardez la présentation, le packaging de la série, c'est vraiment une série qui va imiter vraiment The West Wing, hein, la Maison Blanche, hein, à la fois dans ses discours, dans sa présentation aussi, dans son affichage, et qui va vraiment en fait s'appuyer sur une sorte de consensus, de vision démocratique du monde qu'ils essayent aussi de diffuser et de transmettre. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ça porte et ça répond à un désir aussi, un désir démocratique. Donc c'est difficile de parler dans ce cas-là de manipulation, puisque en réalité, regardez la plupart des séries, hein, et on n'a pas parlé par exemple des mini-séries très féministes, comme cette série Unbelievable qui a vraiment parlé des violences contre les femmes, ou la série Maid qui parlait vraiment du travail de ménage, du travail domestique. Je donne ces exemples parce que finalement, ce sont des mini-séries produites par Netflix, donc vraiment avec une ambition, bien sûr, commerciale, mais qui, en fait, répondent aussi à une volonté aussi d'en savoir plus, hein, de mieux connaître, en fait, la condition des personnes qui sont réellement opprimées. Et je crois que c'est quand même pas un hasard si vous n'allez pas trouver tellement de séries très, très, très réactionnaires, racistes, conservatrices. Hein, c'est bien parce qu'il y a quand même cette espèce d'esprit démocratique partagé qui est souvent un peu moqué, hein, parce que les gens vont dire que c'est le politiquement correct, etc., bien entendu, mais qui est en réalité vraiment une ressource politique aujourd'hui, hein, dans une situation où il y a quand même pas mal de menaces, hein, contre les démocraties.
Alors, il y a les séries qui ne préparent pas au réel, enfin, on l'espère quand on parle de zombies, mais qui proposent un espace de réflexion en montrant, hein, des personnages comme revenus à l'état de nature. C'est le cas, par exemple, de The Walking Dead.
Maybe you people are better off without me. Go ahead. I say there's a place for us, but maybe it's just another pipe dream. Maybe I'm fooling myself again. Well, why don't you go and find out yourself? Send me a postcard. Go on, there's the door. You can do better. Let's see how far you get. No takers? Fine. But get one thing straight. You're staying. This isn't a democracy anymore.
Voilà, ce n'est plus une démocratie, oui. Sandra Laugier. On est à la fin de la saison 2 et Rick Grimes, l'ex-policier, c'est le héros, ouais. il est un peu le leader, membre d'un groupe de survivants dans cette Amérique en pleine épidémie de zombies, décide que pour des questions de survie, en fait, il ne peut plus consulter chacun et prendre des décisions suivant une règle démocratique.
C'est vraiment un moment clé de la série. C'est intéressant, on repense beaucoup à The Walking Dead maintenant qu'on regarde The Last of Us, qui est aussi finalement une série post-apocalyptique avec un point de vue finalement très différent, peut-être plus original, mais The Walking Dead, ça a été vraiment un phénomène incroyable, surtout les premières saisons. C'est une série qui a été extrêmement vue, qui est tout à fait mythique, parce qu'elle pose un problème moral très crucial, qui est effectivement comment est-ce qu'on va vivre dans un monde où il n'y a plus d'institutions, en fait. Donc bien sûr, il n'y a plus de démocratie, parce qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'éducation, il y a à peine un langage partagé. Et même, on ne sait jamais même comment on appelle les zombies dans le film.
Il y a
une sorte de différence.
C'est intéressant,
suivant les groupes, qui montrent qu'il n'y a même pas d'unité, ni politique, ni linguistique. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de se demander mais comment les gens peuvent rester moraux, peuvent rester des bonnes personnes dans un univers comme celui-là. Et la première et la deuxième saison, c'est vraiment toute une phase où ils vont progressivement renoncer à leurs principes moraux. Il y a un moment où Rick Grimes dit, un moment dans la première saison où il s'agit de tuer une personne infectée, il va dire, we don't care the living, on ne va pas tuer des gens, des humains. Puis bon, après, bien sûr, on va faire que ça, c'est même les pires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, petit à petit, on va abandonner tous les principes de l'humanité. Et ce qui est vraiment intéressant en termes d'éducation du spectateur, c'est que le spectateur lui-même va abandonner ses principes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a, nous-mêmes, les spectateurs, petit à petit, renoncé, et ils nous font aussi comprendre cela. Et ça, je crois que cet effet de réflexivité, finalement, de nous faire comprendre comment aussi nous, on a perdu un certain nombre de principes en regardant la série, c'est vraiment assez vertigineux.
Donc vous expliquez, Sandra Laugier, avec The Walking Dead, que c'est de l'éducation politique par l'horreur épidémique. Et aussi, ça nous entraîne à nous dire, nous, citoyens, qu'il faut rester vigilants, quelle que soit la situation, même en cas de situation épidémique généralisée. Ce qui se fait en notre nom peut poser problème aussi.
C'est vraiment une des leçons, c'est clair, puisque bien sûr, ce que nous apprend The Walking Dead, c'est que il faut aussi essayer de maintenir cette exigence-là, y compris quand on est dans une situation apocalyptique, et il y a toujours cette tentation de dire que dans ce cas-là, il faut s'en remettre à un chef, ou alors il faut renoncer à la liberté. C'est ce que suggère bien sûr Rick Grimes à la fin de la seconde saison. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point il y a malgré tout cette nécessité de garder en fait cette forme d'humanité. Alors, évidemment, on se demande toujours où est passé Rick Grimes, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une série qui vraiment interroge là, mais un peu comme la série de Leftovers, qui était très, à laquelle on pensait pas mal. C'est une série qui est aussi une série HBO où, en fait, un jour, il y a 2% de l'humanité qui disparaît sans laisser de traces, et qui a été très marquante, parce que là aussi, finalement, même avec 2%, c'est pas du tout comme comme The Walking Dead, où tout le monde pratiquement est mort, il y a quelques personnes en moins, mais il y a une sorte de de déséquilibre complet, en fait, de la société. Et donc, ce qui est intéressant dans toutes ces séries, puisque finalement, même si elles nous habituent à l'horreur, en même temps, c'est vrai qu'on s'attache à chaque personnage, même des personnages de la première, de la seconde saison donc de The Walking Dead. On y pense encore, hein, parfois. Et donc, cet attachement permet aussi à chacun de comprendre à quel point chaque personne est importante, en fait.
Et puis peut-être aussi que ces séries sur des épidémies rejoignent toutes nos peurs enfouies sous la menace climatique, tout ce que le changement climatique pourrait nous faire endurer, toutes ces menaces sur le vivant, finalement, c'est pas très loin derrière.
Ah, c'est vraiment le thème apocalyptique, il existe depuis un bon moment, hein, de cette façon. Et c'est vraiment une façon de représenter des menaces, des peurs qui sont extrêmement partagées. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on a eu vraiment au cinéma aussi. En fait, ça c'est partagé, c'est vraiment un thème qui est très partagé finalement entre le cinéma et les séries télévisées. Et c'est vraiment un thème qui révèle la vulnérabilité aussi du monde. Hein, le fait que finalement, on ne soit pas du tout... voilà, il y a une forme, oui, de fragilité, pas seulement du monde, mais même de l'humain et de la vie humaine ensemble, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à percevoir très bien dans ces séries.
Et puis, il y a la question géopolitique qu'on n'a pas encore abordée. Alors, comédie du remariage, guerre froide et tensions internationales, voilà le cocktail détonnant de The Americans, où l'on suit dans les années 1980 un couple d'Américains bien sous tout rapport, mais qui, dans l'intimité, se trouve être en fait un couple d'espions du KGB.
Vous n'aimez pas votre travail ?
Notre emploi du temps change sans arrêt, un jour à un endroit, le lendemain à un autre.
Alors c'est pas évident d'avoir un vrai dîner en famille. C'est un officier du KGB.
Je leur raconte tout. Sur le mauvais système en Union soviétique.
Peut-être qu'on devrait se débarrasser de lui.
Est-ce qu'il va bien ?
Il a déjà remarqué que quelque chose ne tournait pas rond.
Merde.
Vous êtes en danger immédiat. Je crois qu'il est temps.
Vous croiriez pas ce qui se passe en Union soviétique.
Sandra Logier, vous écrivez que cette série, The Americans, expose des enjeux éthiques complexes de façon inégalée. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a différents niveaux de... Parce qu'il y a l'intime, de l'intime jusqu'à l'international. De l'intime parce que même, même les enfants de ce couple ne savent pas que leurs parents sont des espions russes.
Oui, enfin, pendant un moment en tout cas, puisqu'ils vont essayer de former leur fille aussi à l'espionnage. Mais c'est vrai que c'est une série qui est extrêmement ambitieuse de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a effectivement ce rapport entre l'intime et le géopolitique, puisque c'est des espions, mais c'est aussi à quel point finalement c'est une série qui va marquer ses spectateurs, alors notamment aux États-Unis en fait, puisqu'on a quand même un couple qui sont des espions, qui sont donc des assassins, qui sont des Russes, des communistes, qui en plus font des adultères, ce qui est pire que tout, hein, et qui sont adorés par le public. Et là, il y a quand même quelque chose de très extraordinaire, hein, qu'on a jamais vu à ce point. C'est vrai que parfois, on va s'attacher à des personnages épouvantables, hein, comme dans Succession ou dans Breaking Bad.
Ou dans Dexter.
Mais là, c'est pas seulement qu'on s'y attache, mais on les aime vraiment. On pense d'une certaine façon qu'ils peuvent avoir raison. Et là, il y a vraiment une sorte de puissance, en fait, de ces personnages et de leur histoire qui va faire de cette série quelque chose de tout à fait unique. Et aussi parce que on a des personnages qui sont très 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 puissants en fait, et notamment elle, donc Elizabeth Jenkins, hein, puisque c'est un couple qui agit sous un nom américain et qui est un personnage de femme très originale, parce qu'elle est extrêmement
radicale,
extrêmement dure et très très radicale politiquement. Et malgré tout, elle parvient vraiment à convaincre. Et bon, sans spoiler, on peut quand même dire que quand ils arrivent à en réchapper, on est quand même... Voilà,
on est soulagé.
On est quand même content pour eux.
Alors justement, ce personnage, la femme dans le couple, c'est la plus radicale, celle qui a le moins d'état d'âme. C'est quand même une tueuse, en fait, hein, il faut le dire. Mais elle est très sympathique et attachante pour autant. Peut-être aussi parce que ces personnages, on va les suivre sur vraiment plusieurs saisons. Et cette série a quand même une dizaine d'années. À cette époque-là, on regardait un épisode par semaine. On ne pouvait pas avaler toute la première saison d'un coup. Et donc, c'est aussi le temps de l'attachement à ces personnages qui ont des doutes, qui vont avoir des retournements de situation. Ce n'est pas des personnages monolithiques.
Alors c'est vraiment ce que le long terme, cette durée des séries permet. Hein, et on parlait de Last of Us, ils ont essayé de recréer cela finalement, cette espèce de fréquentation de long terme. Mais The Americans, effectivement, ça a été 6 saisons. Et donc vraiment beaucoup de temps passé avec ces personnages pour comprendre et apprécier. Toute leur complexité. Et il me semble que ça, c'est vraiment un élément très, très essentiel, en fait, de l'expérience des séries, et que parfois, on l'oublie dans le mode de diffusion hein, de beaucoup de séries aujourd'hui. Mais cette série, c'est vraiment quelque chose qui permet en particulier de voir les gens même évoluer physiquement. Parce que c'est ça, quand on voit même la façon dont ils se transforment. Hein,
les enfants grandissent vraiment.
Les enfants grandissent, c'est vraiment des personnes complètement différentes. Dans Game of Thrones aussi, hein, c'est pareil, de voir les enfants grandir, hein, comme la petite Arya, etc. C'est vraiment quelque chose qui va en fait donner une sorte d'inscription physique. Parce que pendant ce temps, nous aussi on vieillit. Nous aussi on a pris un coup de vieux pendant ces années-là. Et du coup, il y a cette espèce de vraiment transformation quasi physique qui va suivre la nôtre. Et là, il y a vraiment cette influence très forte avec aussi ce retour annuel. C'est pas étonnant qu'on parle de saison. Enfin, c'est les grandes, voilà, c'est aussi les grands rythmes de la vie. Et c'est une série qui vraiment est un très bon exemple de cela. Mais on peut le dire aussi de séries comme Friends, hein, ils sont restés dans la vie des gens pendant quand même pas mal d'années. Et on a vu quand même aussi les personnages évoluer. Donc c'est pour ça que ça reste une série mythique que les gens continuent à regarder. Ou une série comme Engrenage, on n'en a pas parlé là, c'est une série en plus qui a 8 saisons, mais en plus parfois, ça a duré beaucoup plus longtemps, la durée de diffusion, et ça a permis aussi qu'on vraiment un attachement de long terme à des personnages, pourtant pas tous formidables.
Hein. Non, c'est sûr. C'est un film, The Americans, une série d'espionnage, trahison, dissimulation, meurtre, on l'a dit. Et puis ce temps long aussi, sur plusieurs années, ça permet des retournements de situation absolument pas prévus dès le départ. Finalement, The Americans, c'est aussi un film du remariage dans la tradition, on va dire, la structure du cinéma hollywoodien classique.
Alors c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, parce que je suis moi-même une disciple de Stanley Cavell, qui est un penseur du cinéma, un philosophe du cinéma, qui a fait ce livre classique sur les comédies du remariage. Ça s'appelle À la recherche du bonheur. Et c'est vraiment la référence philosophique hein, de l'ensemble de sa réflexion, d'autant qu'il a considéré que ce modèle du remariage permettait au cinéma classique hollywoodien des années, disons, 30 à 50, de toucher un public très large avec une structure qui était quand même très fréquemment utilisée, qui est celle du remariage, du couple qui va se séparer au début et se réconcilier à la fin du film. Et c'est une structure qu'on va d'ailleurs trouver, alors là, très très souvent au cinéma, beaucoup plus souvent que dans les séries, et en particulier dans les films catastrophes. En fait, dans tout film catastrophe, vous avez un remariage. Ça, c'est une parenthèse, parce que c'est vrai que dans The Americans, ce qui est frappant, c'est qu'on a ce couple qui, bon, au début, est un peu artificiel, hein, un peu convenu parce qu'ils sont là pour espionner, et petit à petit, effectivement,
ils vont tomber
amoureux l'un de l'autre, et ils vont donc avoir ce remariage, et ils vont même se remarier réellement dans le cours de la série. Et donc, cette structure du remariage, de la trouver dans une série, c'est vraiment intéressant parce que ça n'est pas si fréquent cela, et ça crée un lien vraiment entre vraiment le genre sériel ambitieux et finalement des grands genres cinématographiques. Donc.
Merci Sandra Laugier. On pourrait encore tenir, je pense, une autre émission. Juste, quelle série vous regardez en ce moment ? Bon, The Last of Us, on a compris. Alors,
je regarde The Last of Us, mais je vais vous étonner, je regarde Breaking Bad, parce qu'en fait, je n'avais pas... je fais aussi du rattrapage, puisque l'idée... Voilà, parce que je pense qu'il faut aussi avoir... un corpus classique de série pour arriver à vraiment faire respecter ce genre, ce corpus à la hauteur de ce qu'il est.
Merci beaucoup Sandra Laugier. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Nos vies en série, publié chez Flammarion, et Les séries, laboratoire d'éveil politique, qui vient de paraître aux éditions du CNRS. On parle de Wakanda Forever qui sort en Chine, juste après cette nouveauté musicale, Sam Smith, L'Audio, tiré de son nouvel album Gloria. You say you're packing your bags, this isn't what I thought forever would be. You're walking out so casually. How could you give up on us like that? You say you're feeling the pressure and you'll be better with me out of your life. But baby, that ain't happening tonight. Want you to know that I'm willing to make this right. I'd be crazy if I gave you up. When you give me that unfiltered love, it is all I need. I can hardly breathe. You are what I want. Et c'est le moment de notre journal du cinéma. Tout d'abord, Isabelle, de bonnes nouvelles pour ouvrir ce journal.
Oui, avec la libération du réalisateur iranien Jafar Panahi la semaine dernière, libération sous caution après 7 mois de détention et le début d'une grève de la faim. Les films de Jafar Panahi ont été primés dans les plus grands festivals, Cannes, Venise, Berlin, où il avait reçu l'Ours d'or pour Taxi Téhéran. Le réalisateur devait purger une peine de prison de 6 ans pour propagande contre le système.
Et puis un prix pour un film somalien.
Le film « Will my parents come to see me ?»« Mes parents vont-ils venir me voir ?» du somalien Mo Araoué a décroché le grand prix de la compétition internationale au 45e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, le plus grand événement du genre au monde. Une fiction de 28 minutes qui raconte l'histoire d'une policière qui accompagne un jeune détenu dans les méandres du système judiciaire somalien. Mo Araoué a fui la Somalie en 2009 pour se réfugier en Autriche où il a déjà réalisé plusieurs courts-métrages.
Du côté des plateformes de streaming, Disney Plus perd des abonnés pour la première fois de son histoire.
Oui, une perte de 2,5 millions d'abonnés lors du dernier trimestre 2022. Il lui en reste près de 162 millions dans le monde, ce n'est pas si mal. Mais ce décrochage inquiète la plateforme qui a connu depuis son lancement en 2019 une ascension météorique. Le groupe Disney a par ailleurs annoncé 7000 licenciements. Si le streaming reste l'avenir et la priorité numéro 1, Disney n'abandonnera pas pour autant les cinémas et les chaînes de télévision jugées encore rentables.
Bonjour, I'm Emily Cooper.
Bonjour. Vous attendez pas avant demain?
You lost me a bonjour.
Yeah, I was told the American coming here spoke French.
I did Rosetta Stone on the plane, but it hasn't kicked in yet.
Bonjour la plouc.
Bonjour la plouc.
What is la plouc?
La plouc, the heck?
Ah, Paris sera toujours Paris pour les réalisateurs de cinéma et de séries.
La capitale française reste un aimant pour les tournages. Emily in Paris, Lupin, Woody Allen comptabilise 7000 jours de tournage en 2022 pour une centaine de films et près de 70 séries télévisées. Un succès qui a un coût écologique, beaucoup trop de véhicules et poids lourds polluants pour transporter le matériel, des groupes électrogènes bruyants. La ville a établi un plan de transition écologique des tournages et demande aux productions d'améliorer leur bilan environnemental.
On part en Chine. C'était cette semaine, mardi dernier, le retour des films Marvel sur les écrans. 4 ans que Disney et les fans attendaient cela. Black Panther 2, Wakanda Forever avait été l'année dernière bloqué par les censeurs. Finalement, le film a pu sortir sur les écrans chinois. sans le succès escompté par les studios, mais avec quand même de nombreux fans, notamment parmi les spectatrices. Reportage à Pékin de notre envoyé spécial permanent Stéphane Lagarde, accompagné de Louise May.
19年整放映的影片
Une annonce façon aéroport qui sort des haut-parleurs de ce multiplex dans les sous-sols d'un centre commercial à Pékin. On n'attache pas sa ceinture, mais on enfile ses lunettes 3D. La séance de Rainbow R, Black Panther 2 va démarrer. Cette trentenaire travaille dans une agence immobilière. Elle attendait ce moment depuis trop longtemps.
Cela fait plus de 3 ans que je n'ai pas vu de film Marvel sur grand écran. Je suis très excitée d'y retourner. J'ai la nostalgie du premier Black Panther, bien sûr, mais celui-ci est aussi important, notamment pour le pouvoir des femmes. C'est la tendance en ce moment.
Le blocage des films Marvel ces dernières années en Chine a coûté des dizaines de millions de dollars à Disney. Pour ce retour, les distributeurs ont largement ouvert leur écran, mais le bouche à oreille sur les réseaux n'a pas été très bon au démarrage. Cet employé d'une compagnie d'État ne comprend pas. Pantalon, manteau, lunettes noires, elle adore les films de super-héroïnes, dit-elle.
La partie la plus touchante, c'est la fin, quand la princesse grandit et qu'elle devient reine. Elle s'assoit sur la plage, il y a le vent qui souffle sur elle. Elle se souvient alors de sa mère et de son frère. Moi, je ne suis pas fan des films super virils comme Iron Man. Là, il y a un peu plus de subtilité dans les sentiments et dans la performance. Il y a de l'action, mais c'est un film d'amour.
19h, la séance en IMAX va commencer, l'heure où débarquent des groupes de cinéphiles aux drôles de noms sur l'appli WeChat, les yeux de chat, les tomates pourries ou encore les chineurs de films, des passionnés qui bénéficient parfois de tickets à prix réduit de la part des producteurs ou des distributeurs en échange de leurs commentaires sur les réseaux. Cheveux teints, lunettes rondes, ce grand échalas en est à sa 2e projection de la journée.
Moi, j'ai été à la séance de minuit et là, on m'a offert le billet. C'est pas mal, mais le problème, c'est que le film circule déjà en streaming. Et puis, comme il y a beaucoup de scènes de nuit sous-marines, le film est un peu sombre. Donc il y a eu des critiques.
Parmi les reproches, des détracteurs qui ont vu le film non pas sous le manteau, mais en mauvaise définition sur les réseaux, un scénario qui serait décousu en raison de multiples réadaptations suite au décès de l'acteur principal, Chadwick Boseman, remplacé par Laetitia Wright, sa sœur au cinéma, dans le 2e opus. Ce qui ne dérange pas, bien au contraire, ce jeune homme qui fait de la publicité pour les restaurants en ligne.
Il y en a qui disent que le film manque de colonne vertébrale. Moi, j'y vois surtout une transmission entre le frère et la sœur. Certains, surtout, n'acceptent pas qu'une femme Black Panther remplace l'homme. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas un remplacement, mais une continuité, au contraire. C'est comme ça que je vois le film et j'ai beaucoup aimé.
Les censeurs n'ont jamais dit pourquoi ils ont voulu bloquer le film au départ. Certains pensent à une séquence autour de l'homosexualité, mais c'est aujourd'hui oublié, en tout cas sur le papier. Critique de film sous le nom de plume Le Vent, Madame Wang revient sur ce qui a pu déplaire à une partie des internautes chinois.
Il y a une part de féminisme dans ce film. Il y a peu de place pour la représentation masculine, ce qui a probablement dérangé certains. Bon, je ne sais pas, mais j'imagine que les mauvaises critiques viennent surtout des hommes. Pour ma part, j'ai été émue aux larmes, même si je n'ai pas pleuré. Je pense que Marvel a réussi à prolonger la vision et l'esprit de départ du film. Pour moi, Wakanda Forever est meilleur que le précédent. J'ai beaucoup aimé la fin quand la Panthère Noire renaît en Princesse Shuri. C'est une renaissance et c'est très beau.
Avec 20 millions de yuan, moins de 3 millions d'euros de recettes le premier jour, Black Panther 2 fait moins bien qu'attendu, c'est même la moins bonne sortie d'un film Marvel en 10 ans en Chine. Mais pour les fans du genre, il y aura une séance de rattrapage avec la sortie de Ant-Man La Guêpe le 17 février prochain sur les écrans chinois. Stéphane Lagarde, Louise May, Pékin, RFI.
Ainsi s'achève notre émission Tous les cinémas du monde, une émission présentée par Isabelle Chenu
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Samedi prochain, nous vous proposons de réécouter notre émission spéciale consacrée à l'auteur de Kirikou ou Prince et Princesse, Michel Oslo. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI. RFI.